Sir Thomas More, en 1516, a écrit un livre appelé Utopie. Et dans son livre, il décrit une île imaginaire dans l'océan Pacifique. Une île où une communauté de gens vivent dans des conditions parfaites. Dans ce livre, il décrit une terre de paix, de prospérité, de grande abondance, libre de crimes et de pauvreté. Et ils avaient tellement de richesses sur cette île que même dans leur salle de toilette, tout était en or. Il n'y avait là aucun avocat, aucun médecin, aucun policier. Un endroit paisible et harmonieux. Utopie, c'est un beau mot. Et les gens de tout temps ont toujours désiré un tel endroit. Un autre livre a été écrit concernant un endroit semblable par le philosophe Platon. Il l'a écrit longtemps avant Sir Thomas More et il décrit une telle société dans son livre appelé La République. Il décrit également une île semblable à Utopie, l'île de Thomas More. Un paradis terrestre, littéralement. Et dans les écrits grecs et dans les écrits du Moyen Âge, on retrouve ces notions-là. Un paradis terrestre, comme étant dans l'océan Atlantique. Et dans plusieurs publications, ils appellent ce paradis Atlantis. Vous avez déjà entendu parler de la cité perdue d'Atlantis. Un Autrichien du nom de Theodor Hetzker, en 1845, a écrit ceci. Il a dit « Ce monde merveilleux d'utopie est en Afrique centrale. » Plusieurs écrivains, bien sûr, ont écrit au sujet d'une société parfaite. Le ciel sur la terre, pour ainsi dire. Un beau rêve. Et plusieurs personnes ont essayé de former des communautés pour atteindre cet objectif. Mais ce beau rêve est resté justement un beau rêve. Ça n'a jamais été plus loin. Un beau rêve. Un homme appelé Nathaniel Horton a été un des initiateurs d'une commune appelée Brook Farm et il a écrit un livre appelé The Blithedale Romance. Et dans ce livre, il dit ceci. L'idée d'une vie noble, sans égoïsme, fut une expérience de haut niveau, mais qui a malheureusement échoué au bout de 7 ans. Quelques années plus tard, en 1851, un anarchiste nommé José Warren a démarré aussi une commune utopique fondée sur la souveraineté individuelle. On appellerait ça aujourd'hui « faites vos propres choses ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait chacun ce que bon lui semblait, mais ça a duré seulement 6 ans. Et ça aussi a échoué. C'est devenu une autre étoile inaccessible ou un autre rêve irréalisé. Les utopistes ont créé une commune aussi appelée Harmonie en Indiana en 1814. C'était des gens travailleurs, religieux, ingénieux. Ils étaient convaincus de l'imminence du retour de Christ à ce moment-là. Mais Harmonie a vécu seulement une courte période et ça s'est arrêté. Un homme du nom de Robert Owen a acheté la propriété et a recommencé la même expérience sous le nom de Nouvelle Harmonie. Il l'a appelé un empire de bon sens. Ça a duré seulement 2 ans. Et l'utopie s'est avérée ce qu'elle est, illusoire. Et la recherche des êtres humains a continué. Dans les années 1960, vous vous rappelez, les communes hippies ont voulu bâtir une telle utopie. Il y en a une qui continue à exister en Afrique. En Afrique du Sud. On les appelle les Blue Rockies. Et cette phrase veut dire « les robes bleues ». Leurs dames sont habillées de belles robes bleues et portent de superbes chapeaux bleus. Ils ont aussi une communauté. Et ils ont de petits villages. Et ils essaient de toute leur force de créer un monde utopique. Tous aimeraient vivre en utopie, dans ce monde de rêve. L'être humain cherche ça. Lorsque Thomas More a utilisé le mot utopie, ça vient de deux mots grecs. La première partie du mot veut dire « pas » et la deuxième partie veut dire « un endroit ». Utopie n'est pas un endroit, ce n'est nulle part. L'utopie n'existe pas. L'homme a toujours rêvé d'un tel monde et il a travaillé de toutes ses forces pour arriver à construire l'utopie. Mais c'est un mythe, c'est une idéologie, ça n'existe pas. On ne le trouve nulle part, on ne trouve nulle part le monde utopique qu'on a essayé de construire. Un tel pays de rêve, harmonieux, abondant, paisible, ça n'existe pas. Les gens ont rêvé à l'impossible rêve, mais ne l'ont jamais atteint. C'est impossible d'avoir cette utopie maintenant. Les gens ont essayé par leurs propres moyens, ont toujours manqué leur coup. Ce qu'on a vu, c'est des guerres, des combats, des renversements de gouvernement, meurtres, assassinats, enlèvements, violences, famines, activités de guérillas. Nous voyons de tout. Mais on ne voit jamais se réaliser l'utopie d'un monde de paix et abondant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'utopie, une société parfaite pour le bien de tous, est impossible actuellement? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir un monde rempli de prospérité, rempli de joie, rempli d'harmonie et de bien-être? Pourquoi ça devrait être impossible? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une communauté internationale de peuples qui vivent une telle existence utopique? Vous savez une chose, frères et sœurs? Un jour, très bientôt, cela va se réaliser. Allez à Marc, chapitre 1 et le verset 14, s'il vous plaît. Marc, chapitre 1 et le verset 14. L'utopie s'en vient. Jean-Baptiste, dans ce contexte, avait été mis en prison et Jésus-Christ commençait son ministère à ce moment-là. Et le Christ a annoncé ce que les êtres humains ont cherché à travers toutes les générations. Le Christ décrit la venue d'une utopie et il l'appelle le royaume de Dieu. Lisons le verset 14. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est proche. Votre temps est proche. En d'autres termes, le Christ a dit, ça fait des milliers d'années que vous essayez de bâtir l'utopie et vous avez échoué. C'est impossible que ça vienne de votre part. Mais le royaume de Dieu est proche. Je vais revenir pour établir cette utopie, ce royaume sur la terre. Le Christ a dit, le royaume de Dieu est proche, son établissement est tout proche. Et ça, c'est le thème central de la proclamation de Jésus-Christ, de son annonce de l'Évangile. Ce thème est souligné partout dans la Bible. Dans Matthieu, il est mentionné 46 fois, 31 fois, il est mentionné dans Luc et 14 fois dans le livre de Marc. Ça veut dire donc à 91 reprises dans ces trois livres-là, cette mention du royaume de Dieu est faite. Et il y a encore 61 autres endroits où il est indiqué que le royaume de Dieu est proche. 6 plus 1, ça fait 7, 61 endroits. La fête des tabernacles que nous célébrons dure 7 jours. 7 est le chiffre biblique de la perfection. Mais où sera ce royaume? Et combien de temps va-t-il durer? Qui est en charge de ce royaume et sera en charge de ce royaume? Est-ce que ce sera vraiment l'utopie que les humains ont tellement cherchée depuis le début de l'histoire? Allons à Apocalypse chapitre 19, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19. Et nous allons commencer à lire au verset 11. Apocalypse 19 et le verset 11. Il faut réaliser qu'à la fête des tabernacles, une trompette va sonner. Il y a trois fêtes où la trompette doit sonner. D'abord, la fête des trompettes que nous venons de célébrer, la fête des expiations que nous venons de célébrer également, et la fête des tabernacles. Apocalypse 19, donc, et le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Rappelez-vous, Apocalypse 14, 14, il est indiqué que le Christ aura sur sa tête une énorme couronne d'or, ce qui le désigne comme étant roi des rois, supérieur à tous les autres rois. Et ici, on voit au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et ça signifie, ça représente toutes les autres fonctions qui seront les siennes à ce moment-là aussi, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Verset 13, il est dit, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. » Voilà le dirigeant. « Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. » Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Quelle description magnifique. Apocalypse 20, Apocalypse 20 maintenant, verset 1, il est dit, « Et je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande chaîne. » Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de jugé. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, pendant 1000 ans, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors, voici, il est déclaré ici que le Christ va revenir sur cette terre pour établir dans une première partie un règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire une période de 1000 ans. Ce sera une époque fantastique. Ce sera le moment où le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Apocalypse 5 maintenant et le verset 9. Apocalypse 5 et le verset 9. Il est question ici du gouvernement mondial de Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il revient ici, c'est la description qui est donnée, avec ses saints pour établir l'utopie avec vous et moi sur cette terre. Et ce que l'humanité a toujours désiré va se réaliser finalement par la puissance de Dieu. Ce sera ici, sur la terre. Et ça va commencer à Jérusalem, puis ensuite ça va s'étendre autour de toute la planète. Apocalypse 5 et le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire des rois et des enseignants pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Frères et sœurs, c'est vous et moi. Nous régnerons sur la terre. Le gouvernement de Dieu. Jésus-Christ avec ses saints qui auront été fidèles. Allons dans Zacharie, le chapitre 14, s'il vous plaît. Zacharie, le chapitre 14. Le Christ et ses saints sont en mission. Et la première considération de ce pays magnifique appelé Utopie, qu'est-ce que les gens ont besoin pour que ça se réalise et qu'ils y goûtent? Zacharie 14, et nous allons commencer au verset 3. « L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. » Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est formidable. Le Christ sera là avec tous ses saints en sa compagnie. Tous ses saints l'accompagneront. Verset 9. L'Éternel sera alors roi de la terre, de toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Gibéa à Rimmon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Remarquez, il n'y aura plus de destruction, c'est ce que veut dire le mot interdit. Jérusalem sera en sécurité. Jérusalem sera en sécurité. La première partie de notre mission, alors, ce sera d'apporter la paix à Jérusalem et ensuite, de façon graduelle, au reste du monde. C'est formidable. Au cours de l'histoire, les êtres humains se sont entretués. Les êtres humains ont été victimes de guerres, de violences de toutes sortes. Ils ont été tués à cause de l'inhumanité des humains pour les êtres humains. Ils ont souffert de la méchanceté des gens qui font le mal. Mais les Écritures vous montrent, à vous et à moi, que cette période est tout proche de prendre fin maintenant. Allons à psaume 37, un superbe psaume ici, psaume chapitre 37. Cette période de souffrance humaine est sur le point de prendre fin maintenant. Psaume 37, et le verset 9, ça parle de la terre qui sera bientôt changée. Ça décrit comment cette utopie sera établie sur la terre. Et c'est décrit par la fête des tabernacles que nous observons aujourd'hui. Psaume 37 et le verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ça vient bientôt. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ça parle de l'époque que nous célébrons aujourd'hui, la fête des tabernacles, le règne millénaire de Jésus-Christ. Verset 10 maintenant, « Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Bientôt, le méchant aura disparu. Vous pourrez essayer de trouver de la méchanceté sur la terre, vous n'en trouverez plus. Ce sera éliminé de la face de la terre totalement. Allons au verset 22 maintenant. « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. » Verset 29. « Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. » La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Une description merveilleuse. Verset 34. « Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants être retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. » Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il vivra encore à ce moment-là, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Quelle magnifique description! Quel futur merveilleux! L'avenir de cet homme-là est une bénédiction. Quel psaume encourageant! Qu'est-ce que la paix? Est-ce que c'est seulement l'absence de la guerre? Ce qui manque le plus dans notre monde aujourd'hui, c'est la paix. La paix entre les nations. La paix entre les groupes ethniques. La paix dans les familles. La parole d'Ésaïe n'a jamais été aussi éloquente que ce qu'on voit autour de nous maintenant, dans Ésaïe 59 et le verset 8, lorsqu'Ésaïe dit « Les êtres humains ne connaissent pas le chemin de la paix. » Ça décrit ce que nous voyons autour de nous. Et Paul dit la même chose dans Romains 3, verset 17. « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Vous vous rappelez cette chanson du film « L'homme de la Mancha »? « Rêver de l'impossible rêve. » Une paix durable. Ça semble être une inatteignable étoile. Les gens essaient de l'obtenir par la force, par des alliances, par la diplomatie, ou simplement en ignorant le problème. La paix aujourd'hui, c'est une illusion. Partout autour du globe, dans toutes les nations, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. L'utopie n'existe pas. L'utopie n'est nulle part sur la terre, mais Jésus-Christ et ses saints vont apporter cette réalité-là sur la terre. Une paix permanente sur toute la face de la terre. Allons à Ésaïe, le chapitre 9, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 9, et nous allons commencer à lire au verset 5. Ça indique ici qu'un nouveau gouvernement mondial s'en vient, et c'est tout proche de nous maintenant. Et ce sera un gouvernement de paix qui sera établi sur la terre. Verset 5, Ésaïe 9, donc. « Car un enfant nous est né. » On parle du Christ ici. « Un fils nous est donné. » Et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix, le prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Merveilleux, c'est Dieu qui va amener cette utopie. La paix, enfin, sur la face de la terre. La paix apportée par Jésus-Christ. Et cette paix sera permanente et ça va couvrir toute la terre. Ça va commencer à Jérusalem et ça va s'étendre sur toute la face de la planète. La paix continuelle tout au long de son règne. Et c'est quelque chose à chérir. Nous allons revenir un peu plus tard dans Ésaïe, mais allons maintenant à Psaume 72. Psaume 72. Psaume 72. Voici encore des écrits superbes, encourageants. Et ça parle de l'utopie dont il est question dans le sermon aujourd'hui. Et ça décrit la fête des tabernacles dans sa réalisation très prochaine. Psaume 72, et nous allons commencer à lire au verset 2. Ça souligne encore que la paix sera établie sur la terre, une paix permanente qui va durer à jamais. Psaume 72, donc, et le verset 2. Verset 2. « Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. » Et ici, les questions de gouvernement. « Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira. Voilà une époque toute proche où la paix durera. Verset 7. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. N'est-ce pas magnifique? La paix sera jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de lune. Et on sait que la lune va durer toujours. Wow! Comme on dit en Amérique. Est-ce que vous pouvez réaliser ce que sera ce monde merveilleux? La paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Allons à Ésaïe, une fois de plus, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 11. Maintenant, Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Il est dit ceci. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Voici un de mes passages favoris. Verset 9 maintenant. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas enthousiasmant? Il ne se fera plus à ce moment-là ni tort ni dommage sur toute la face de la terre. Vous trouvez la même description un peu plus loin dans Ésaïe 65 et le verset 25. Quelle description superbe et tellement encourageante. Vous savez, les Nations unies à New York ont leur quartier général et il y a une statue devant le quartier général des Nations unies qui représente dans le fond le rêve d'utopie que les hommes ont eu à travers l'histoire. Le monde vit dans un état terrible actuellement. Et la guerre, c'est terrible. Même si vous n'avez pas été au milieu d'une guerre, vous pouvez voir par l'histoire qu'est-ce que c'est que les horreurs. Et jusqu'à ce jour, les gens sont encore en guerre dans de nombreux endroits, de plus en plus à travers le monde. Aux Philippines, il y a des bombes qui éclatent régulièrement. En Afrique, les gens meurent de faim et sont assassinés, sont mutilés par d'autres Africains. On n'a pas idée de l'ensemble des souffrances horribles, des angoisses, de la douleur que les gens vivent chaque jour et de plus en plus. Des millions de gens, pas une ou deux personnes. Mais cette image devant le quartier général des Nations unies représente la transformation de ce monde de guerre en un monde de paix. Ça représente un ouvrier qui transforme une épée en charrue. Et ça représente ce rêve que l'être humain n'a pas été capable d'atteindre jusqu'à maintenant, la paix mondiale. Mais le Christ a donné cette promesse certaine et merveilleuse que la paix sera établie sur la terre par la puissance de Dieu. Il n'y aura plus ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. C'est une prophétie à deux volets, si vous voulez. Ça va exiger d'abord la restructuration de tout l'écosystème. Il faut noter une autre chose aussi. Les animaux mentionnés ici sont symboliques de nations. Ils représentent des nations. Et ça représente le temps où les nations vont vivre en paix ensemble. Ça représente la fin des guerres qui ont marqué l'humanité depuis le début de son histoire. Dans les textes qu'on a vus, l'agneau, la vache, le chevreau, le veau, le bétail qu'on engraisse, le bœuf, représentent souvent dans les Écritures les peuples israélites aimant généralement la paix. Alors que les autres animaux, comme la panthère, le lion, l'ours, symbolisent généralement les grandes nations gentilles, les prédateurs. Allons à Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 4. Vous allez voir de quoi je veux parler ici. Jérémie, chapitre 4 et le verset 5. Jérémie 4 et le verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Voilà un temps de guerre. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur, un grand désastre. Un grand désastre. Voilà la grande détresse. Et regardez le verset 7. Le lion s'élance de son treillis. Le destructeur des nations est en marche. Alors, Dieu se sert de ces animaux-là pour les associer aux nations gentilles qui sont les prédateurs dans le monde. Allons à Jérémie 5 maintenant. Jérémie 5 et le verset 6. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Il s'agit d'une nation ici. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Alors, la panthère, le lion et le loup représentent les nations qui sont des prédateurs. Le Christ va revenir et va changer la nature sauvage des animaux des champs, bien sûr, mais va changer le cœur féroce qu'il y a dans les êtres humains en un cœur paisible et agréable à Dieu. Alors, Dieu va établir la paix dans le monde animal et dans le monde des êtres humains, tel que nous voyons dans le passage des Écritures. Alors, les animaux deviendront paisibles et les humains deviendront paisibles. Il y aura des changements énormes. Voilà pourquoi toute la situation deviendra paisible et harmonieuse. Quelle réalité merveilleuse! Quel monde extraordinaire! Allons à Zacharie, le chapitre 9, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 9. Rappelez-vous que c'est le Christ qui va amener la paix aux nations, qui va amener l'allégresse. Son règne sera l'apparition de l'utopie. C'est comme ça que ce sera. Le Christ a annoncé son intention dans l'Évangile, cette intention majeure qui va se réaliser. Alors, gardez ce qu'il dit ici. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Bien sûr, ça s'est réalisé. C'est la première venue du Christ qui avait été annoncée. Et regardez le verset 10 maintenant qui décrit sa deuxième venue. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ va proclamer la paix à toutes les nations de la terre. Le Christ a le pouvoir de l'annoncer et le pouvoir de l'appliquer, cette paix-là, de faire qu'elle se réalise. Il aura l'autorité et la puissance pour le faire. Il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, comme a dit Dieu. Zacharie 8 maintenant est le verset 4. Zacharie 8 est le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem. Il n'y aura pas de roquette qui va s'abattre sur la ville à ce moment-là, ils seront en paix. Chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. C'est différent aujourd'hui, absolument. Mais à ce moment-là, ce sera un monde tout à fait différent. Il n'y a pas d'utopie aujourd'hui à Jérusalem. Les enfants sont à risque lorsqu'ils vont dans les rues aujourd'hui. Regardez le verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. En vue de la paix, encore une fois. Et la paix sera établie. Quelle époque merveilleuse qui approche. À la fin du verset 19, il est dit la même chose. Aimez la vérité et la paix à la fin du verset 19. Intériorisez cette paix. Voyez ces choses-là d'avance. Il y aura un monde de paix sur toute la terre, mais vous devez d'abord en vivre. Et le Christ nous montre ici que ce qui vient est une réalité. Les Écritures ne peuvent être brisées. Les enfants seront en sécurité partout sur la terre. Et les gens vivront par l'amour de Dieu, par la justice et par la paix. Il parle de Jérusalem. Mais ça ne s'appliquera pas seulement à Jérusalem. Allons à Ésaïe chapitre 32, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 32, le verset 18. La promesse du Christ va s'appliquer d'abord à Jérusalem, mais ensuite va s'étendre au reste du monde. Pas de dommages, pas de guerre, pas d'atteinte à la liberté individuelle, personne en danger d'être attaqué ou d'être détruit ou d'être tué. C'est difficile à réaliser aujourd'hui lorsque nous voyons le monde, mais les Écritures ne peuvent être brisées. Ce qu'elles disent va s'accomplir. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, Ésaïe 32, 18, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. N'est-ce pas magnifique? Allons au verset 16, juste un peu avant. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. La loi de la cause et de l'effet. Quelle chose merveilleuse! L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Tellement encourageant, une description tellement réjouissante. Et ce sera pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les autres générations au cours de tout ce millénaire. Mais la paix est beaucoup plus que ça. La paix, c'est plus que de ne pas avoir d'agression ou de ne pas avoir de violence ou de criminalité. La paix, c'est beaucoup plus que ça. Le mot hébreu pour paix, c'est shalom. Et c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Ça représente, bien sûr, la paix. Et ça signifie paix. Mais c'est un mot qui désigne tout ce qui contribue au contentement, à la sécurité et à la tranquillité. Le docteur Barclay, dans son livre « Le dictionnaire des mots du Nouveau Testament », dit ceci. « Dans le sens du Nouveau Testament, la paix n'est pas simplement l'absence de troubles. C'est tout ce qui contribue à notre plus grand bien. Tout ce qui contribue à notre plus grand bien. Tout. » Au sens biblique, paix signifie tout ce que la vraie paix peut apporter à un être humain. Libéré de la guerre, la sécurité chez soi, la prospérité, une bonne santé, une vie abondante, longue, voilà à quoi ressemblera l'existence humaine lorsque le prince de la paix sera sur la terre. Allons à Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel, le chapitre 34 maintenant. Chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34. Au cours de l'histoire, un des plus grands problèmes qui a empêché la paix d'exister, ça a été les manques ou les besoins pour les gens. Pas assez de nourriture, pas assez d'habillement, pas assez d'habitation, pas assez de sécurité. Mais ces choses-là vont changer. Ézéchiel 34 et le verset 22. « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître. Qui, mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de quoi? De paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. » Verset 27, « L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. » Et il n'y aura personne pour les troubler. Personne pour les troubler. C'est superbe. Ézéchiel 37 et le verset 24. Ézéchiel 37 et le verset 24. Mon serviteur David sera roi. Au milieu d'eux, ils auront un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux, quoi? Une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Rien de temporaire ici, voyez-vous. Cette utopie sera permanente. Et cette utopie sera présente sur la face de la terre. Michée a été inspiré d'écrire qu'à ce moment-là, chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Une image merveilleuse d'une société qui fonctionne bien. Une société utopique. Mais qui va se réaliser, et qui va se réaliser dans la paix, dans le contentement, dans la compassion, dans l'amour, dans la sécurité. À travers les âges, ce qui a empêché de façon majeure la paix d'être établie, ça a été les besoins des êtres humains qui n'ont jamais été comblés à cause de leur méchanceté. Le dictionnaire des citations dit ceci, « Puisque les guerres commencent dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit de l'homme que la paix doit commencer à se bâtir. dans l'esprit des êtres humains. C'est là que le changement doit se faire. En 1951, le général Douglas MacArthur, après la Deuxième Guerre mondiale, a prononcé un discours historique devant l'Assemblée générale du Congrès américain. Il a fondé son discours sur la solution à la guerre. Il a dit ceci, et je cite la fin de son discours. « Nous avons eu notre dernière chance. Si nous n'arrivons pas à concevoir un système plus juste et plus efficace, Armageddon sera à nos portes. Si nous voulons sauver la chair, cela doit venir de l'esprit. » Des paroles extrêmement profondes. L'histoire de l'humanité, ça a été une histoire de guerre. L'humanité ne peut pas régler ses propres problèmes. Il doit y avoir un changement dans notre nature humaine. Nous devons être transformés de charnel en spirituel, de la carnalité à la spiritualité. Et si ce n'était pas le cas, l'utopie serait toujours un rêve irréalisable. Mais l'utopie se réalisera parce que la nature des animaux sera changée et la nature des êtres humains sera changée par la puissance de Dieu. Nous vivrons dans un monde nouveau. Ézéchiel chapitre 36 et le verset 24. Ézéchiel 36 et le verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai alors sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un nouveau cœur et un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Formidable! N'est-ce pas magnifique encore une fois? La restauration spirituelle de l'humanité va amener ce changement total sur la face de la terre. Durant ce règne millénaire du Christ, Dieu va répandre son esprit et ça va rendre les gens capables de vraiment, avec enthousiasme, obéir aux lois de Dieu et à ses commandements. Ça va produire un changement phénoménal. La justice deviendra universelle sous un leadership juste et parfait, et la société deviendra un monde stable. La parole de Dieu, rappelez-vous, ne peut pas être brisée. Ce que Dieu a annoncé va arriver. Michée chapitre 4, maintenant Michée chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 1. Michée chapitre 4 et le verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux. Quelle joie, quel espoir extraordinaire! Quelle réalité merveilleuse qui nous attend! Les millions de soldats qui sont morts au cours de l'histoire. C'est affreux. Encore aujourd'hui, des femmes, des enfants, des vieillards sont victimes des guerres. Combien d'agonies aujourd'hui encore à cause des guerres. Mais un jour, la paix sera là, très bientôt. Quelle joie, parce que la guerre n'existera plus. Quelle joie inexprimable. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. N'est-ce pas magnifique? Au niveau national et international, la seule façon qu'il y ait une paix permanente, c'est par la puissante intervention directe de Dieu et par le fait qu'il va restaurer toutes choses. Il y a des changements inimaginables qui vont se produire et ces changements-là seront permanents d'une génération à l'autre. Allons à Ésaïe, s'il vous plaît, le chapitre 56. Ésaïe, chapitre 56. Ésaïe 56 et le verset 6. Quand les gens des autres nations vont voir ce qui se passe à Jérusalem, les gens vont désirer devenir les serviteurs du Christ et vont vouloir obéir aux lois de Dieu. Ésaïe 56 et le verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Nous avons lu deux passages concernant cette alliance. Et c'est une alliance de paix, comme on a vu. L'utopie à venir. Verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière. Pour qui? Pour tous les peuples. » Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. « Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Le monde entier sera rassemblé en unité. Et Dieu dit que sa maison deviendra une maison de prière pour tous les habitants de la terre. Les barrières entre les nations vont tomber. Le mur de Berlin est tombé, mais tous les autres murs qui existent physiquement ou autrement vont disparaître. Comme l'apôtre Paul dit, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire du non-juif. Ésaïe 65 maintenant, Ésaïe 65 et le verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, comme on voit aujourd'hui. Chaque jour, aux nouvelles, on voit des hommes et des femmes qui sont dans l'angoisse et qui pleurent la perte de leur fils ou de leur fille partis combattre pour leur pays. Ce sera terminé. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel, mon passage préféré. Il ne se fera plus ni tort ni dommage, tel que dit l'Éternel. Quel temps merveilleux qui approche! Quel monde utopique merveilleux, mais réel! Il y aura une restauration physique et spirituelle sur toute la face de la terre. Voilà la vision du merveilleux monde à venir. Ce n'est pas une illusion. C'est une promesse infaillible de Dieu et cette promesse sera réalisée parce que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Et cette paix qui est décrite dans les textes, ne s'avérera pas un rêve impossible. Au contraire, la paix divine est garantie et va couvrir la terre entière comme les eaux couvrent le fond de la mer totalement. C'est une chose merveilleuse qui fait rêver. Dieu va donner son esprit à toute l'humanité et ses lois seront enseignées sur toute la terre. Ses voies seront enseignées et ça va produire une paix durable sur la face de la terre. Et la société sera bénie au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Quel glorieux moment ce sera. L'utopie se sera réalisée. Le merveilleux monde à venir. Père, que ton règne vienne.